Allez, tu rentres direct en hurlant. Bam, bam. Allez, c'est maintenant.
Sale grosse vache, sale grosse. T'es trop moche, tu ressembles à rien. Tu prends trop de place, sale pute, t'es là juste pour manger. Moi, c'est Shaïne. Ce que vous avez entendu, c'est les phrases qu'on m'a dit, redit et encore dit. Ce que je vais vous raconter est mon histoire. J'ai vécu quelque chose que personne n'aurait dû vivre. En fait, quand j'étais petite, j'ai été harcelée à l'école tous les jours pendant 5 ans. Je ne voulais plus y aller, je pleurais, je me coupais du monde, je perdais toute confiance en moi. Pour plus entendre ça, j'ai fait des régimes, courir, mais ça n'avait rien changé. Alors j'ai décidé de dire stop et de plus me laisser faire. Je n'avais plus la force d'entendre ces mots. J'y suis arrivée grâce à ma mère et ma psychologue. Alors d'aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, je pourrais même dire que je kiffe ma vie. Toi qui te fais harceler, ne lâche rien, assume-toi comme tu es, ne change pas pour les autres, tu es très bien, juste aie confiance en toi.
De quoi demain a-t-il besoin ? Voilà la question sur laquelle environ 200 jeunes ont travaillé pour proposer les 26 et 27 mars leurs argumentations au théâtre Couson MJC de Rive-de-Gier. L'onde citoyenne est le nom de ce projet qui fait suite au haut-parleur, un événement organisé depuis 4 ans par la MJC. Un nouveau nom au service du pouvoir d'agir, du débat, de l'intelligence collective, de la prise de parole, de l'éloquence et du partage. Un partage d'idées, d'opinions et d'une expérience rare que Radio Ondaine vous propose de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui.
Maman, faut que je te dise quelque chose.
Oui, mon ange.
Je suis amoureuse.
Waouh, mais c'est génial! Il s'appelle comment?
C'est une fille.
Pardon, c'est quoi cette idée qui te passe par la tête?
Ça fait plus d'un an que j'ai des sentiments pour une amie.
Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille comme toi?
Mais...
Tu pourras pas avoir d'enfant.
Je pense pas encore à
tu
ça.
Tu vas te faire juger par les gens.
Je m'en fous,
tu vas perdre des amis. Mais tu vas tomber en dépression et tu me remercieras de t'avoir raisonné.
Mais je vais pas tomber en dépression vu que j'aime quelqu'un.
Tu verras bien.
Mais maman, tu comprends pas ce que je veux dire. J'ai vraiment des sentiments pour cette fille. Et puis j'ai le droit de faire et d'aimer qui je veux.
T'aimes un garçon, un point c'est tout.
Mais je comprends pas, normalement on devrait entendre. On espère que ça se passera bien et que ça durera longtemps. Tant que tu es heureuse, on est heureux. Félicitations, trop bien. Mais toi, tu me dis que moi, ta fille, je suis bizarre. On tombe amoureux d'un cœur et pas d'un corps.
Écouter les jeunes, leurs envies, leurs questionnements est une définition du projet social de la MJC de Rive-de-Gier. Depuis 2018 et la première édition des haut-parleurs, toute l'équipe salariée et bénévole de la structure se mobilise pour tendre ce fil rouge sur plusieurs mois et ouvrir aux challengers la scène de l'onde citoyenne réaction en ricochet. Joëlle Chardon, administratrice de la MJC, nous explique l'onde citoyenne.
Alors ce projet est né il y a 4 ou 5 ans. Il est né d'une réflexion et d'une idée d'un administrateur qui a proposé, après avoir vu le film Eloquentia ou à voix haute, un projet d'éloquence qui s'appelle à voix haute, de l'avocat Laurent Perrier. Pour la Seine-Saint-Denis, qui a organisé ces concours d'éloquence. Nous est venue l'idée, alors à ce moment-là, en réflexion, de comment proposer une prise de parole à des jeunes, aux jeunes de la MJC et aux jeunes des écoles de Rive-de-Gier. La question était de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'exprimer sur des questions sans doute citoyennes qui nous semblent extrêmement importante dans notre monde contemporain qui est complexe.
Alors c'est un événement d'une grande importance où des écoles se déplacent, où des jeunes se déplacent, des jeunes de la MJC, mais même d'autres structures viennent, travaillent, s'entraînent, sont coachés, entre guillemets, pour faire entendre leur production. Comment ce projet-là s'inscrit-il dans la vie de la MJC à l'année ?
Alors, dans la vie de la MJC, ça nous demande un travail en amont qui est important et un travail collectif. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs administrateurs qui travaillons avec, bien sûr, les animateurs qui, eux, sont des professionnels. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ce travail qui va demander une organisation importante et surtout de nombreuses sessions avec soit à l'intérieur des écoles, soit à l'intérieur de la MJC, qui va demander une organisation assez importante et bien imaginée, au préalable, nous demande à nous donc déjà une programmation, déjà de nous mettre d'accord sur nos calendriers avec les écoles, entre nous, et surtout de chaque session qui va faire travailler les jeunes sur soit la question de l'éloquence, mais la question de l'argumentation, la question de s'emparer d'un sujet d'actualité. Ça nous demande à nous tous ensemble une préparation encore plus importante que la durée de la session. C'est-à-dire qu'on va, se réunir déjà à plusieurs moments pour voir comment on met au point, quelles sont les questions qu'on va poser, comment on va organiser des jeux, comment on va travailler dans la salle de classe ou à la MJC, entre brainstorming, entre prise de parole, entre travail sur l'argumentation. Voilà, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, en tant qu'administrateur, c'est un petit peu de travailler aux côtés des animateurs professionnels et donc d'avoir un regard de terrain et pas uniquement de décision, de gestion de la MJC.
Alors le thème choisi parle de l'avenir dans une période un peu compliquée où on vit au jour le jour. Et donc aujourd'hui, on demande à ces jeunes-là qui participent d'imaginer le futur. Pourquoi une thématique sur ça ?
Cette thématique est choisie parce que il nous semble que malgré la crise, on est étonné de la capacité des jeunes à quand même se poser les questions de demain. On est étonné de leur conscience d'un certain nombre d'enjeux qui sont par exemple l'écologie, qui sont par exemple l'égalité homme-femme, et malgré leur jeunesse et malgré les difficultés effectivement actuelles, ils ont leur idée sur cette question. Et les faire travailler plus en profondeur sur ces questions-là, nous semble, avec l'aide également de leurs enseignants, qui font un travail aussi considérable dans les interstices de notre projet. Hein, ils continuent à travailler, ils continuent à discuter, on ne part pas de rien. Et on s'aperçoit qu'on construit des idées, qu'on laisse de côté un petit peu les préjugés, qu'on laisse de côté la question des fake news, et qu'on essaie d'avancer avec eux sur ces questions de demain, et que on a été toujours agréablement surpris entre les premières, peut-être, sessions où on sent une petite inquiétude, peut-être un petit désintérêt sur ce projet qui arrive, et au fur et à mesure, une sorte d'adhésion au projet. Ils se prennent au jeu, les enfants, les adolescents se prennent au jeu et arrivent à parler à la fin du projet sur une question en y ayant réfléchi vraiment dans toute, on peut dire, dans l'ensemble de la question de leur sujet.
Alors, ça mobilise un certain nombre de personnes, des salariés de la MJC, des administrateurs comme vous, même des utilisateurs, des adhérents de la MJC qui viennent et donner un coup de main pour l'organisation. On s'investit sur le moment, on travaille sur un sujet, on entend la voix des jeunes sur ce sujet-là. Est-ce que ça influence ensuite le projet, entre guillemets, social de la MJC ? Est-ce que l'on reprend des éléments qui ont été dits pour les imaginer comme une source de travail et de réflexion au sein de la MJC ?
Dès l'année passée, la question de continuer sur ces idées qui sont avancées a été mise en avant. Parce qu'effectivement, bien sûr que la MJC, le travail de la MJC, c'est de travailler sur des questions d'actualité et de s'emparer et de ne pas rester en dehors du numérique, de l'écologie, de la citoyenneté, de l'adhésion des jeunes à des idées politiques et de leur et là, dans ce projet-là, de leur confiance en eux et de leur capacité à réfléchir. Mais c'est vrai que la question de comment continuer l'intégrer plus est intervenue déjà l'année passée. Et l'année passée, on a introduit, les animateurs, les professionnels, les enseignants, ont introduit dans ce projet la question de l'action avec la municipalité, avec l'aide de la municipalité, de l'action que pourraient mettre les jeunes en œuvre au sein de leur commune pour continuer ce projet. Alors, l'année passée, malheureusement, on a eu le confinement juste avant notre dernier stade du projet. Les actions ont continué, mais pas dans l'ampleur dans laquelle on les avait imaginées. Tout étant fermé, l'espace public étant fermé, on avait prévu des agora. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation et que cette année encore, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une sorte de suite à ce projet dans les actions, dans des actions de prise de parole publique ou d'actions en partenariat avec peut-être la mairie, mais peut-être des structures, la médiathèque, des structures plus agricoles, par exemple, au sein de la commune, pour continuer à travailler sur les idées avancées. Et c'est ce qui nous paraît peut-être sans doute intéressant. Quant à la MJC, c'est vrai que on essaie d'être traversé par toutes ces questions du moment. Hein, c'est notre objet.
Alors, deux jours de représentation ou deux jours d'éloquence, deux jours de discours en ce 26 mars et le 27 également, avec une adaptation. Hein, d'habitude, ça se tient en public à la salle Jean d'Asté. Ici, c'est dans le théâtre de l'MJC, théâtre Couson. Une captation vidéo va être réalisée et ensuite, ça sera diffusé. Alors, on a dû retravailler la façon de faire. À quelle échéance on imagine pouvoir voir ces performances-là?
Alors, ça a été la grande question, ça a été l'organisation. Parce que là, on peut dire que ce projet, on a travaillé dans une incertitude à peu près totale. Et il faut, moi, je vais souligner la confiance et le professionnalisme des acteurs de la MJC, des salariés de la MJC, qui à chaque moment ont quand même, malgré la situation, ont eu confiance en ce projet. Moi, il me semblait, dans la situation actuelle, on était un certain nombre à douter. Donc, que ce projet se réalise et que ces deux journées-là soient consacrées au projet nous paraît vraiment, je ne vais pas dire un miracle, mais vraiment un aboutissement qui est très très important dans la motivation que tous les salariés ont mis à cette question-là. Après, sur la diffusion, je pense qu'elle aura lieu plus tard. Nous, on a en permanence un écran qui rediffuse. On a le site de la MJC, bien sûr, qui diffuse. Et peut-être le site de la commune aussi qui va nous diffuser l'ensemble de ces prestations parce que ce serait vraiment dommage qu'elles ne soient pas diffusées de façon plus large.
Alors, en quelques chiffres, combien de jeunes à peu près participent cette année ?
Alors, on a vraiment baissé la voilure. Hein, par rapport, on était parti des années précédentes, on avait pratiquement 500 jeunes. Hein, et donc, ça n'a pas été possible cette année. D'une part, des écoles se sont retirées. D'autre part, la situation a fait que des jeunes sont moins venus à la MJC. Mais là, on a travaillé sur environ 200 jeunes. Hein, on avait plusieurs classes, des écoles qui ont été très volontaires, qui sont toujours très partantes pour ce projet. Et des structures également à Saint-Étienne. Et également, les jeunes plus habitués à la MJC, qui sont plus fidèles adhérents de la MJC, qui ont participé. Donc, je dirais entre 200 et 250 jeunes, bien que ce ne soit pas aussi important que les années précédentes.
S'il vous plaît, on va appeler le prochain groupe qui va venir faire ses réglages. Donnez place.
Les enfants sont un peu stressés et puis au bout de quelques minutes sur scène, ils s'habituent au dispositif, donc ça va.
Donc vous venez de voir sur vos camarades comment ça se passe. On teste les micros d'abord un par un et puis petit à petit, voilà. Donc vous pouvez répéter votre texte en boucle le temps que Cyril en régie trouve le bon réglage. Le positionnement du micro, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Et il doit être juste en dessous de votre bouche, ok ?
La journée du 26 mars est dédiée aux écoles primaires de la ville de Rive-de-Gier. Y participent cette année les CM1, CM2 des écoles Charles Perrault et Saint-Exupéry. Quelques minutes avant leur passage sur scène et entre deux répétitions, Majdi, 9 ans, et Yasmine, 10 ans, nous expliquent avec leurs mots l'onde citoyenne.
Ben, en gros, on avait une question et il fallait répondre avec la question et on a mis toutes nos idées. Et aujourd'hui, on va passer sur scène et on va réciter à peu près toutes nos idées qu'on a rassemblées. La question, c'est de quoi demain a-t-il besoin ?
D'animaux, de bonheur, de solidarité, de nos amis, des émotions.
Est-ce que c'est dur de préparer un texte comme ça et de se dire qu'on va le présenter sur scène devant des gens, alors devant ses camarades, mais devant des gens aussi qu'on connaît pas trop ?
Ben, c'est pas si compliqué. Au début, il faut que tu commences à écrire tes idées, t'écris un texte, puis tu le tapes à l'ordinateur. Ensuite, tu l'apprends et t'essayes de rajouter des détails, t'essayes de faire des choses bien pour donner le meilleur de toi-même.
Majdi, toi, comment tu t'es préparé ce matin ? Comment tu t'es levé ? Dans quel état d'esprit tu es là ?
Bah, je suis content parce qu'on va réciter notre texte et je suis trop content mais un peu stressé de passer sur scène.
Bah moi, après le passage, ben, je serai fière de moi.
Moi, après le passage, je serai content et je serai très fière de moi parce que j'ai bien travaillé avec mon groupe et moi.
Rémi Jamin est enseignant à l'école Saint-Exupéry du quartier du Grand Pont de Rive-de-Gier. Un processus de préparation est nécessaire pour développer l'argumentation de ses CM1 et CM2. Nous lui demandons tout d'abord, lors de la présentation de ce projet, quelles ont été les premières interrogations de ses élèves.
Eh bien, assez étonnamment, pas grand-chose, parce qu'ils sont extrêmement motivés par ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est... tout le travail qui est fait en amont sur les années précédentes et sur ce qu'on a pu faire en début d'année. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont saisis de la question, du système, de cette volonté de penser pour essayer de changer des choses. Alors forcément, on a des questions sur la société qui ressortent. Parce que si on se demande de quoi demain a besoin, on se demande aussi qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui. Et ils se posent toutes ces questions-là, mais en fait, ce sont des questions qu'ils se posent déjà parfois intuitivement et sur lesquelles le travail, l'éducation, l'enseignement leur ont déjà donné des billes pour répondre. Alors c'est un projet qui a véritablement débuté en décembre dans les classes. Au niveau des programmes, on peut s'y raccrocher sans aucune difficulté parce que tout ce qui est réflexion, argumentation, éloquence, prise de parole, ce sont des choses qui sont présentes dans les programmes. Au niveau du travail, nous avons eu la chance d'avoir des interventions de la MJC de qualité régulière, autant pour préparer la réflexion que pour écrire, et ensuite l'oralité avec des acteurs metteurs en scène qui sont venus nous aider. Bien évidemment, ça nécessite également de continuer ce travail en classe, de prendre du temps pour le faire, mais d'un autre côté, un projet n'est porteur que si on lui donne l'espace à l'intérieur de la classe pour s'agrandir justement. Et plus les élèves sont motivés, plus le temps qu'on va y passer va leur sembler facile, rapide. Et on s'aperçoit, par exemple, cette dernière semaine avant le passage sur scène, que les enfants se sont investis chaque jour sur des présentations aux autres classes pour roder leur éloquence, pour roder leur capacité à prendre la parole et appréhender de mieux en mieux leur texte.
Dans votre accompagnement sur ces textes-là, sur la rédaction, sur l'oralité, le fait de prendre la parole, quels outils vous avez utilisés, vous, en classe, quels leviers vous actionnez pour permettre que le discours soit le plus précis possible et corresponde le plus à la pensée des élèves?
Alors la première chose, alors c'est un mot un petit peu à la mode, hein, mais c'est la bienveillance. Ça a l'air tout bête en fait, mais quand on les encadre, quand on les cadre et qu'on leur donne la possibilité de s'épanouir dans un projet sans remettre en question leurs paroles, ça leur permet d'écrire plus facilement. Mon mot d'ordre, ça a été le moins de contact possible avec leur texte. Non pas que je ne sois pas là pour les aider, mais ce n'est pas à moi de mettre ma parole dans ce texte-là, mais bien leur parole. Donc souvent, c'est de la dictée à l'adulte pour les élèves les plus en difficulté, avec lesquels il faut justement creuser ou on les interroge, mais ce sont toujours leurs mots, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils s'en emparent autant, c'est que ce sont leurs pensées, leurs mots, qui leur permettent aujourd'hui d'avoir un texte à présenter, un texte qui est extrêmement fort pour certains. On est vraiment allé sur des choses très précises, sur les droits des femmes, sur les violences faites aux enfants, sur les violences faites aux femmes, sur l'égalité, sur le respect que l'on se doit, des choses qui les touchent en fait. On n'a pas toujours l'impression, mais ce sont des éponges qui comprennent ce qui se passe. On a beau ne pas leur dire, ils le comprennent. Et c'est pour ça qu'il est important dans une classe d'expliciter tout ça, de définir, de donner des mots pour les aider à s'emparer de tout ça.
Alors vous avez fait un petit panel finalement des thèmes qui sont abordés. Les informations qu'ils vont piocher à droite à gauche, quelles sont-elles pour développer? Est-ce que ce sont leurs propres pensées? Est-ce que aussi vous avez remarqué pour ces élèves de CM1, CM2 qu'il y a eu un effort de recherche, de croisement d'informations pour pouvoir avoir cette pensée-là et cette argumentation à faire?
Alors clairement le croisement d'informations, c'est ce qu'il y a de plus difficile. La recherche d'informations, c'est compliqué. Obtenir déjà d'eux qu'ils soient capables de mettre en mots leurs pensées et leurs avis, qu'ils soient capables de faire peut-être même évoluer leurs avis sur certaines positions, c'était vraiment mon cheval de bataille. Après, on a trouvé des informations, on a trouvé le nombre de femmes à la tête des entreprises. Tout ça, ce sont des informations assez faciles à trouver sur Internet aujourd'hui. Mais c'était presque pas le... j'ai envie de dire presque pas le plus important là. Le plus important, c'était vraiment qu'ils arrivent à exprimer ce qu'ils ressentaient et donner leur point de vue pour changer une société à laquelle ils appartiennent déjà et à laquelle ils appartiendront encore plus demain quand ils seront adultes. Ma conviction profonde, c'est que ces enfants, ce sont les adultes de demain et que si on les guide et que si on les aide à prendre conscience qu'ils ont des pensées et que ces pensées sont souvent bonnes et judicieuses, eh ben on se prépare une société plus intéressante pour demain aussi.
D'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que l'on fera après ce week-end de présentation? Est-ce que vous allez revenir sur leurs argumentations, sur l'événement? Est-ce que ça va aussi perdurer sur le reste de l'année?
Alors, on aura deux axes. Le premier, ça sera forcément un feedback sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il va falloir qu'avec les élèves, on débrief, qu'on se dise, voilà, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, parce que même si le week-end est là et qu'on n'aura pas le temps de le faire avant le week-end, il faudra absolument leur donner cette soupape de décompression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la MJC continue, elle, à monter des ateliers pendant les vacances sur les actions citoyennes qui sont liées à tout ce projet, parce que nous avons parlé de toute la réflexion qui a été faite en classe, mais il y a aussi tout un pan de travail, comment dirais-je, manuel ou pratique, c'est le terme, où on essaye de mettre en place des choses justement pour répondre à cette question. Donc ce n'est pas que de la parole, c'est aussi de l'action. Et ce deuxième volet est plutôt fait par la MJC. Nous, c'est vrai qu'une fois qu'on aura fait le retour sur ce qui s'est passé, qu'on en aura profiter, qu'on en aura parlé, qu'on aura les vidéos à montrer aux familles. C'est vrai que le projet pour nous en classe va s'arrêter parce qu'on a d'autres projets et qu'il faut avancer dans l'année également. Mais une chose est sûre, c'est que quel que soit le résultat aujourd'hui, tout le travail qui a été fourni par les enfants a créé une cohésion de classe, a créé une cohésion dans les orchestres. Me permet moi aussi de leur dire attention, vous voyez, vous êtes censés travailler ensemble, être ensemble, c'est pas se faire des petites remarques. Donc la solidarité, le soutien les uns des autres, c'est des choses qui sont travaillées de manière transversale tout du long par ce projet.
J'ai fait un rêve, il se passait dans 60 ans, j'avais 71 ans, beaucoup de choses avaient changé. Dans mon rêve, dans 60 ans, il y aurait un peu moins de pauvres dans les rues parce que les mairies auront acheté des maisons pour les pauvres.
Les pauvres auront plus d'argent alors que les riches en auront moins. Donc les riches se sentiront moins supérieurs. Il y aura beaucoup moins de travail pour les associations caritatives comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge. Il n'y aura plus 7,9 millions de pauvres, mais peut-être qu'il n'y en aura plus aucun.
Enfin !
La journée du 26 mars s'achève. Les orchestres d'élèves se sont succédés et le jury a présenté ses commentaires. Céline Claude, adjointe au maire de la ville de Rives-de-Gier, déléguée à la scolarité et membre du jury, nous donne ses impressions.
Eh ben, on se rend compte que les enfants prennent le sujet vraiment à cœur. Ils ont fait un travail formidable, une présentation formidable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on passe vraiment par toutes les émotions, de la tristesse à la joie, sans s'arrêter. Et moi, en tant qu'adulte, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je me dis qu'il y a de l'espoir pour le futur. Et ça, je trouve ça génial.
Alors, des sujets ont été traités, des sujets graves, l'avenir, l'écologie, l'égalité, les violences faites aux femmes, le respect aussi. Tous ces sujets-là ont été développés par des enfants qui ont 9 et 10 ans. Et nous, ici, alors je m'inclus en tant qu'adulte, bah, finalement, on est surpris.
Oui, tout à fait, parce qu'on ne pense pas qu'effectivement, à leur âge, ils aient déjà autant d'idées à exploiter. Et c'est vraiment rassurant, en fait. C'est vraiment rassurant. Ils ont vraiment traité de tout, que ce soit effectivement l'écologie, le respect, l'empathie, la solidarité. Ils ont traité aussi bien de l'actualité que de l'histoire. Et ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont fait beaucoup de travail et je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir également à le faire.
Alors à l'échelle de la ville et de la municipalité, l'implication des plus jeunes dans la vie de la cité, hein, ici, cet événement qui marque l'année, comment vous l'encouragez, vous ?
Oui, donc on compte mettre en place un CEL, donc un conseil d'enfants local. Donc avec, on va travailler avec aussi bien que ce soit les parents, les enfants, les écoles, les ATSEM, tous les gens qui travaillent autour de l'école. On compte mettre ça en route normalement dès la prochaine rentrée en septembre. Et on va travailler sur plusieurs thèmes, notamment ceux qui ont été traités aujourd'hui et sur la vie de l'élève en général, pour pouvoir effectivement les écouter et mettre en place, du moment où on le peut, les idées qui en ressortiront en fait.
Alors enfin, de quoi demain a-t-il besoin ?
Eh bien, je crois que demain a besoin de toutes ces idées, de toute cette jeunesse et de toutes ces solutions qui vont nous apporter. Voilà.
Ok, d'accord.
C'est du sport.
Non, mais c'est du sport, t'as raison. Et toi, vas-y, c'est parti. Sport de niveau.
J'ai un grand escaladeur qui escalade presque tout. Et j'avais d'autres idées. C'est quelqu'un qui est très connu, ça peut être dans le.
Connu, ok. Donc, toi, pour toi, sportif de haut niveau, c'est personne connue.
Bah, un peu très
bon. Ok, ça marche. Allez,
moi, j'imagine du foot parce que.
Tu imagines du foot?
Ouais, parce que c'est plus répandu comme sport.
Ouais.
Et du coup.
Le groupe d'avant, on parlait que de joueurs de foot.
En parallèle de l'onde citoyenne, la MJC de Rive-de-Gier a proposé aux classes des écoles primaires de découvrir l'exposition Atelier, moi et les autres. Particularité de cette visite, ce sont les jeunes qui fréquentent la MJC qui se sont mis dans la peau de guides et animateurs comme Chloé, 15 ans.
Cette exposition, c'est une exposition sur tout ce qui est l'écoute de l'enfant, les droits de l'enfant, les points de vue différents et qui expliquait un peu le vivre ensemble et toute la communautaire et tout. Voilà, c'est une exposition sur l'écoute en général. Voilà.
Alors, si on doit décrire cette exposition, il y a plusieurs espaces distincts. Quels sont-ils et qu'est-ce qu'on fait sur ces espaces-là ?
Alors, on a trois modules, c'est ça ? Un module sur les points de vue. Donc, on avait pour prendre un exemple, on avait des boîtes avec des trous de chaque côté et avec un point de vue différent dans chaque trou. Donc, chacun se mettait et on parlait un peu de ce qu'on voyait ensemble. Dans ces boîtes, il y a des scènes différentes avec selon de quel côté on voit la scène, on la voit différemment. Par exemple, on avait d'un côté des gens qui jouaient à cache-cache et de l'autre côté, on voyait peut-être quelqu'un qui était perdu, quelque chose comme ça. On a aussi un module sur les droits de l'enfant. Donc, c'était une chambre qui regroupait plein de petits objets qu'il fallait réunir et qu'il fallait poser sur un tapis. Et il y avait un atelier qu'on a fait aujourd'hui en exclusivité sur le vivre ensemble, pareil, les préjugés, les choses comme ça.
Et derrière nous, on a aussi ces affiches-là avec des couleurs et des lunettes à porter pour finalement un point de vue différent.
C'est ça, ouais. C'est selon les lunettes rouges ou bleues qu'on voit, on arrive à déchiffrer soit l'écriture rouge, soit l'écriture bleue. Et on voit que les écritures sont différentes, qu'on voit ça traite le même thème mais de façon différente. Pour prendre exemple l'affiche des jeux vidéo, on voit une couverture de magazine qui dit que non, c'est pas la présence des écrans est trop grande dans les familles, c'est une mauvaise chose, tout ça. Et on voit aussi une autre couverture de magazine qui dit que c'est pour les familles tous ensemble, c'est agréable, on fait ça ensemble. Voilà, donc qui met un peu en avant les jeux vidéo, les choses comme ça.
Alors pourquoi vous vous retrouvez guide de cette exposition ou animatrice de cette exposition atelier ?
On m'a proposé de faire une formation il y a quelques mois pour animer ça. Au début, je suis venue sans savoir qu'est-ce que c'était parce que en général, on me propose à l'MJC et je suis toujours partante, je viens direct. Donc c'est avec plaisir que je participe au projet, que je propose mon aide, choses comme ça. Et puis oui, du coup, on m'a proposé la formation. Je suis venue il y a quelques mois pour me former à cette exposition. On a refait les modules. Et du coup, aujourd'hui, on a mis en pratique ces explications. On a passé une journée à d'abord construire les modules, à les mettre en place. Et la seconde partie de la journée, on les a animés. C'est quelqu'un d'une autre MJC qui est venu nous former pour ces modules qu'on avait reçus. Et voilà.
Alors, au terme de cette matinée, avec ces enfants qui se sont succédés, qu'est-ce qui vous a marqué, surpris ? Qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors, souvent, ils veulent toucher à tout, voir qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui étaient tout timides et de savoir qu'il fallait faire. Ils étaient un peu perdus. D'autres qui étaient très ouverts et qui avaient envie de toucher à tout, faire plein de trucs. Mais sinon, toujours, ils étaient très contents de faire... Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, ce que j'avais l'impression de voir. Ils étaient contents de faire tous ces ateliers et... content de passer au suivant et tout.
Alors vous, maintenant, dans l'animation de ces ateliers-là, dans ces différents points de vue qu'on peut avoir, hein, et on reparle encore de ces boîtes où selon où se place la scène n'est pas la même, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris aussi et qu'est-ce que vous avez appris au travers de cette formation ?
Le fait, c'était une première pour moi, donc le fait de faire avec des gens plus petits, je me sentais pas très grande, j'avoue que avant de venir ici, je me suis dit j'ai le même âge qu'eux en fait, globalement. Enfin, j'ai à 3-4 ans près, c'est pareil. Et du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment, je suis légitime de faire ça quelque part? Et puis non, ça s'est très bien passé. Moi, je me suis bien amusée, j'ai été contente de faire ça avec des plus jeunes, entre guillemets, que moi. Et puis, oui, voilà.
Alors ces jeunes-là qui sont passés vont aller sur scène. Vous qui venez souvent à la MJC, quel sentiment vous avez par rapport à ce projet-là ?
Nous, on y a participé cette année aussi. On a fait les haut-parleurs avec un groupe de 4. Et je trouve ça que c'est super intéressant à faire. Ça s'est déroulé sur une semaine pour créer son texte et... faire ce qu'on allait présenter sur scène. Et puis, on a eu des répétitions quelques jours, cette dernière semaine, avant de passer sur scène. Mais l'idée des haut-parleurs est très intéressante, de pouvoir donner la parole aux plus jeunes, de faire toute cette démarche autour de chacun son ressenti sur le texte et tout. Le thème de cette année, c'était « De quoi demain a-t-il besoin ?» Alors personnellement, je pense pas que demain ait besoin de quoi que ce soit parce que demain n'existe pas encore. Il y en a plein qui l'ont dit dans leur texte et demain n'existe pas. Et c'est aujourd'hui qui est important de faire tout ce qu'on veut et arrêter de remettre à demain. Donc de quoi demain a-t-il besoin ? J'aurais pas dit ça, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ?
Globalement, vous l'avez dit, donner la parole aux jeunes, c'est important. Est-ce que vous pensez être écouté aujourd'hui dans la vie de tous les jours ?
Alors moi personnellement oui, parce que je suis assez facilement à l'écoute, parce que quand on m'écoute pas ça m'énerve, mais on m'écoute beaucoup en tout cas, enfin assez que je trouve, mais des gens qui osent pas parler, donner son point de vue c'est très important, mais toujours, que ce soit au plus grand, au plus jeune, c'est très important de voir, de donner... qu'est-ce qu'on peut voir, nous, avec nos yeux de personnes plus âgées ou plus jeunes, notre expérience, tout change. Donc c'est important de donner son point de vue de chacun avec son expérience personnelle.
Samedi 27 mars, nouveau jour pour l'onde citoyenne. Les participants arrivent dès le matin pour se préparer. Rencontre avec deux frères et sœurs, Shaïne, 12 ans, et Braham, 15 ans, qui nous expliquent pourquoi ils se sont inscrits à ce challenge d'éloquence.
Je trouvais que c'était bien de prendre la parole comme ça. On peut s'exprimer comme on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut...
En fait, moi je suis ici, j'ai participé aux ondes citoyennes, car... on est libre de s'exprimer.
Alors, le thème de cette année, de quoi demain a-t-il besoin ? Un thème large, libre. Si on donne une petite réponse, vos thématiques que vous avez choisies, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous allez présenter ?
Moi, je vais présenter à la base, j'étais censé être avec mon frère, mais mon frère n'a pas voulu. Donc du coup, j'apprends mes quatre textes tout seul en parlant du racisme. Parce qu'en fait, il y a trop de racistes dans la rue. D'accord. On entend beaucoup d'insultes et du coup, voilà, on a décidé de faire du rap comme ça, en parlant du racisme.
Bah, moi, j'ai décidé de faire ça sur le harcèlement. Parce que j'étais harcelée quand j'étais plus petite et ça m'a permis de m'exprimer. Voilà.
Partager ces textes, ces productions, hein, ce que l'on a écrit, le partager à vos pairs, à vos semblables, hein, c'est-à-dire les ados qui vont y participer aussi, mais face à un public, face à un jury, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation là, à quelques minutes du début ?
Quand on est devant un juge, bon, au départ, on a un peu peur. On se dit, ouais, mais il va nous dire quelque chose et tout. Mais en fait, après, quand on continue comme ça, après, le stress disparaît.
Bah moi, c'est comme une libération. En gros, bah, déjà, c'est vrai, ça t'enlève le stress quand tu y vas. Et ça te permet aussi de te libérer et t'exprimer comme tu le sens.
Si vous avez l'impression que le monde devient de plus en plus triste et effrayant, sachez que ce n'est pas juste une impression. D'après une étude du Figaro, 66% des sondés vivent au quotidien avec de l'inquiétude, du stress ou de la douleur. Ce mal-être très présent dans la jeunesse, et encore plus avec l'épisode du Covid-19, doit être considéré comme un besoin vital. Plus encore, il doit être entendu. Ne le cachons pas par honte ou par peur, d'avouer ses faiblesses à soi-même et aux autres. Rendons publique notre vulnérabilité. Si ce n'est pas vous qui êtes dans ce que j'appellerais le besoin d'humanité, c'est peut-être votre ami, votre frère ou votre sœur qui souffre en silence. C'était invisible. Vous le voyez maintenant. C'était inaudible. Vous l'entendez désormais. C'était indolore. Par empathie, vous imaginez dorénavant la douleur. Vous ne pouvez plus ne pas agir. Si l'école est un lieu de savoir, elle peut être le réceptacle de ces douleurs. Or, le monde est individualiste, de plus en plus. L'entraide s'évapore, la solidarité se réduit et le partage se dissout. Le risque de repli sur soi est encore plus fort avec la Covid. L'école doit pouvoir être un lieu de parole qui accueille les émotions, qui favorise la libération de la parole, qui inclut et qui nous permet de développer des compétences émotionnelles autour de la solidarité et de l'empathie. Ainsi, je veux mettre mon discours au service de la lutte contre ce mal-être social, au nom de notre besoin d'humanité, pour en faire une force qui nous unit. Le grand magicien de la langue française, Baudelaire, a posé un mot sur cette souffrance, le spleen, qu'il caractérise comme un isolement sans fin, une peur, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Soyons des acteurs d'humanité. Car oui, j'ai une ambition. Ces 66%, moi, je veux les inclure. Publius Sirius a dit « Donner aux gens, c'est aussi partager avec eux le bienfait. » Cette maxime m'inspire et elle guide mon action. Pour moi, le don, c'est d'abord une bouche et une oreille. La bouche pour la parole et l'oreille pour l'écoute. Oui, la parole est la clé de la solidarité. Afin que demain soit meilleur, renforçons les liens sociaux, le partage, l'entraide, la cohésion sociale et ce, dès l'école primaire. Aidons ceux dans le besoin pour que demain nous le rende. Créons une solidarité intergénérationnelle, une solidarité profonde qui rendra notre existence meilleure et qui sera permise par l'éducation, à l'école, par l'intégration, et le développement des intelligences multiples. et en même temps que des espaces de parole où la vulnérabilité pourra enfin s'exprimer librement. Notre perpétuelle évolution est due à cette solidarité, comme l'affirment Mauss et Darwin. Il nous faut alors acquérir le plus vite possible la bienveillance envers autrui. Nous devons retrouver cette unité pour réduire toutes les fractures individuelles, sociales, psychologiques. Et à partir de ce moment-là, l'homme, avec un grand H, il sera et il deviendra meilleur.
Onde citoyenne se veut ouvert à tous. Fiona, Amandine et Axel sont trois lycéens de Saint-Chamond au lycée Sainte-Marie. Ils sont prêts à monter sur scène pour développer leurs idées autour de l'écologie, l'égalité, le vivre ensemble.
Ma motivation, c'était de passer devant un public pour faire passer un message et être entendu par tous.
Alors ce concours, c'est l'onde citoyenne, un challenge d'argumentation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un challenge d'argumentation ?
Bah alors déjà, c'est une aide pour le grand oral qu'on va avoir cette année, parce qu'il se base principalement sur l'argumentation. Et puis en fait, c'est soutenir des propos tout en maniant l'art de l'oralité en fait.
Alors de quoi demain a-t-il besoin ? C'est la question qui a été posée, sur laquelle vous avez préparé vos discours.
Donc moi, j'ai personnellement pris le sujet des énergies nucléaires et de l'écologie.
Pour développer une argumentation, sur quoi vous êtes appuyé ? Quelles ont été finalement vos sources de recherche ? Quels sont les outils qu'on utilise pour créer ce discours-là et puis se faire à une idée ?
Bah déjà, c'est grâce au pôle de l'oralité, on a pu acquérir une argumentation, donner des arguments, expliquer tout ça et illustrer. Et on s'est aussi appuyé sur des sites comme l'INSEE, par exemple, sur des sites fiables.
Alors, qu'est-ce que le pôle de l'oralité ?
Alors, c'est déjà une option à l'école Sainte-Marie. C'est qu'à cet endroit-là. Et c'est un lieu où on argumente, on manipule la langue, on échange, on fait des débats, des disputations. C'est une classe de lycéens, de la seconde à la terminale. Et on a 2 heures par semaine le mercredi. Et on est une vingtaine d'élèves dans chaque groupe.
Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous, adolescents, on vous donne la parole dans le quotidien, dans la vie de tous les jours ? Est-ce que vous avez des espaces, mis à part cette option-là, des espaces dans lesquels vous pouvez vous exprimer ?
Généralement, non. C'est vrai qu'à l'école, on ne nous écoute pas souvent. Mais c'est vrai que le pôle de l'arité, c'est un endroit où on se sent très libre. Surtout, nous ne sommes pas jugés et on est tous à des niveaux différents et on s'entraide. C'est vrai que c'est vraiment la bonne entente, la semaine, quoi, le moment qu'il ne faut pas rater de la semaine. Et puis voilà.
Dans vos argumentations, sur scène, présentées, vous parlez d'écologie, vous parlez de vie, de tous les jours, vous parlez de pauvreté. Est-ce que ce sont des sujets qui sont dans votre quotidien ? Est-ce que vous essayez d'œuvrer au quotidien dans ces questions-là, tout adolescent que vous êtes ?
Oui, bien sûr. Chaque jour, on est baigné puisqu'on est témoin des désastres qui sont causés à la planète, des inégalités ou encore même du harcèlement comme on a pu en entendre parler aujourd'hui.
Expliquez-nous un peu ce que vous attendez après ce concours-là.
On attend surtout d'être entendu, que notre parole elle porte et que tous on y pense et que même on agisse. Et moi ça me rendrait de bonne humeur et ça m'éclaterait on va dire, voilà.
Moi, je serais vraiment très contente d'être passée devant de telles personnes, entre guillemets, mettre ma parole pour agir. Et puis non, c'est une étape. C'est vrai que tout le travail qu'on fournit depuis quelques mois va payer. Et puis nous sommes heureux d'être sur la scène au moment précis.
Oui, je suis d'accord. Je serais très heureux d'avoir participé à une très belle expérience qui est un avant-goût des oraux.
Le grand oral du bac est une nouvelle épreuve qui invite les candidats à répondre à 1 ou 2 questions devant des examinateurs et montrer leur capacité à prendre la parole de façon claire et convaincante. L'école Sainte-Marie de Saint-Chamond développe depuis quelques années le pôle de l'oralité, dont le responsable est Sylvain Bégon.
Alors, le pôle de l'oralité, c'est un dispositif pédagogique qui est spécifique, unique en France, et qui a pour objectif de former l'ensemble des élèves du lycée à la prise de parole en public. L'objectif, et on part d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aucune matière n'enseigne véritablement l'oralité. Et les élèves se retrouvent aujourd'hui face au grand oral du bac, qui va compter coefficient 10 pour leur baccalauréat. Il y a l'oral de français, il y a de plus en plus également de concours, notamment les concours des IEP dont certains de mes élèves qui ont pris la parole, notamment Axel, souhaitent participer. On se rend compte que nos élèves ne sont pas formés pour ces objectifs. Donc on est parti de ce constat-là et on a mis en place une formation obligatoire pour l'ensemble des élèves de seconde pour former nos élèves à la rhétorique, à la prise de parole en public, à la gestion des émotions, notamment du stress, à la confiance en soi. On a également fait en sorte de développer l'argumentation et on est partenaire du concours justement, donc du challenge Onde Citoyenne qui auparavant était appelé Léo Parleur, depuis maintenant 3 ans avec la MJC de Rive-de-Gier. Et grâce à ce concours, grâce à des projets, grâce à des options, vous avez vu tout à l'heure une élève de terminale qui a pris la parole, donc eux ils sont en option oralité. Donc grâce à cette formation, mais aussi grâce à des projets, eh bien on développe cette prise de confiance en soi, cette argumentation et toutes les valeurs qui sont autour, notamment les valeurs républicaines que l'on essaye évidemment de rendre très concrètes pour les élèves. Et là, ils vous ont parlé d'écologie, de féminisme, d'engagement. C'est exactement les valeurs que l'on souhaite susciter dans le pôle de l'oralité.
Le pôle de l'oralité rattaché au lycée Sainte-Marie de Saint-Chamond, expérimental, et une première en France, vous l'avez dit. Quelle est la suite? Quel est son avenir?
Pour l'instant, on va essayer de continuer à s'implanter à Sainte-Marie. On essaye véritablement, déjà on a une perspective d'évolution assez intéressante, notamment parce qu'on est repéré par l'académie et qu'on est en train de travailler notamment dans le côté innovation pédagogique. Donc on essaye de créer également du réseau. Donc on a des partenaires extérieurs, la MJC par exemple ici donc de Rive-de-Gier, mais on s'ouvre également à d'autres acteurs, notamment d'autres lycées, Saint-Michel par exemple, avec lequel on fait parfois des disputatios, donc qui sont des joutes oratoires. Et c'est également une méthodologie un petit peu spécifique, parce que c'est celle que je donne à mes élèves dans le cadre d'un livre que j'ai publié qui s'appelle « La disputatio », et qui est une forme d'outil qu'on essaye de faire également reconnaître au sein du ministère pour justement faciliter la prise de parole en public. Et là, on voit bien que les élèves ont, avec cette méthode, réussi à avoir des discours qui sont construits, qui leur permettent d'argumenter facilement. Et dès la seconde, on a des débats qui sont organisés dans les classes sur l'engagement républicain, sur la vie en communauté, sur la notion de solidarité, la notion de liberté. Donc on se retrouve aujourd'hui face à des perspectives nouvelles. J'espère pouvoir justement montrer à l'académie et aux acteurs pédagogiques que c'est une bonne formule et montrer que l'éducation à l'oralité peut être une véritable éducation à la démocratie.
Depuis la première édition des Haut-Parleurs et aujourd'hui l'Onde Citoyenne, la MJC de Rive-de-Gier a su fédérer son équipe, ses bénévoles, mais surtout les jeunes de la ville et même tout Saint-Étienne Métropole autour de l'importance de faire entendre ses idées et de développer sa pensée. Siloé et Juliette, 15 ans toutes les deux et habituées de ce concours d'éloquence, nous expliquent ce qui les a attirées vers celui-ci.
Parce que ça permet vraiment de s'exprimer et que les gens nous écoutent sur ce qu'on dit, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion.
Et moi, au tout départ, j'étais jury et la première année, et vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Et du coup, l'année d'après, je me suis dit que je voulais être aussi à la place des candidats. Et j'aime aussi beaucoup défendre mes idées, les argumenter, etc. Et du coup, vraiment, j'adore ce projet. Ça me permet de m'exprimer. Personnellement, je suis quelqu'un, vraiment, j'ai mes idées et j'aime les défendre auprès de mes amis, auprès des profs, auprès des adultes. Et ça permet de m'avancer, de m'imposer, pas de m'imposer, mais ça permet d'exprimer mon avis, de pouvoir me faire une place. Et même dans la société, c'est plus simple pour s'exprimer. Je vois aussi, ça m'aide à l'école, je suis plus à l'aise à l'oral. Vraiment, non, ça m'aide au quotidien de pouvoir parler comme ça assez facilement.
Alors, on donne la parole aux jeunes, répondre à des questions. Vous êtes deux adolescentes. La question est, de quoi demain a-t-il besoin? Donner son avis, proposer des idées, est-ce que c'est quelque chose dans votre quotidien que l'on vous propose? Est-ce que vous vous sentez acteur, au sens large du terme, acteur de votre vie, de votre futur?
À la MJC, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent beaucoup parce qu'on peut vraiment faire plein de projets. C'est vraiment un endroit génial. Après, le reste du temps, c'est plus compliqué. C'est un peu... on est des enfants, du coup, on n'a pas vraiment cette liberté de parole ou d'action autre part. Puis il y a la timidité aussi, mais voilà.
Alors vous disiez tout à l'heure que c'est quelque chose qui vous accompagne sur l'année. C'est un projet qui a débuté il y a quelques mois avec les répétitions ici. J'imagine que c'est aussi un travail de réflexion chez soi. Est-ce que vous rapportez ça aussi à la maison? Est-ce que vous en parlez à vos parents?
Moi, je sais que je raconte à peu près tout ce que je fais à mes parents, et ce projet, ils sont vraiment très au courant, vu que ça fait 3 ans. Et puis, ils sont contents en soi, ça me fait sortir chez moi, ça me permet de me développer. Non, franchement, ils sont contents que je fasse ça, et que ça puisse m'aider aussi pour plus tard, au niveau de l'oral.
Ouais, moi aussi, j'en parle beaucoup à mes parents, et puis moi, chez moi, j'écris... des histoires et des textes. Du coup, les haut-parleurs, c'est juste un truc que je fais en plus dans l'année, quoi. Et du coup, c'est vraiment sympa.
Si on revient sur la préparation, comment vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes venu ici à la MJC? Est-ce que c'était en groupe? Est-ce que c'est vous deux? On vous retrouve toutes les deux en train de répéter. Expliquez-nous un peu le cheminement jusqu'à cette date d'aujourd'hui, de ce 27 mars.
Eh ben, tout d'abord, c'est de la réflexion, déjà, chez soi, quand on a appris le thème l'année dernière. Moi, j'avais 2-3 petites idées, mais pas grand-chose. Et puis, du coup, là, aux précédentes vacances, on a fait une semaine de stage ici, avec différents intervenants, sur l'argumentation, sur plein de choses, et qui ont permis de pouvoir écrire, de nous encadrer, de nous aider à pousser nos idées, et à faire un texte qui nous représente vraiment, et à nous pousser à faire de notre mieux, en soi.
Ouais, nous, on a vraiment... Enfin, il y a cette semaine-là, pendant les vacances. Et donc, le premier jour, on fait ensemble. On se dit, alors, ça vous donne quoi comme idée, ce thème-là, tout ça. Ensuite, on commence à écrire nos textes. On a des gens qui viennent nous aider pour les écrire. Ensuite, on les met en voie, tout ça. Puis, il y a quand même une idée de groupe. On devient un groupe assez soudé finalement à la fin de la semaine. C'est vraiment quelque chose de chouette comme moment à
passer.
Silence
dans la salle.
Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue au procès de l'humanité. Je me présente, je suis la juge Siloé Boyer et j'observe la société terrienne depuis déjà plusieurs siècles. Suite à mon enquête, nous avons organisé ce jugement pour punir les humains comme il se doit. Bon, commençons. De quoi les humains sont-ils accusés? Cette espèce n'est pas capable de vivre sans juger et critiquer les pensées, les idées de chacun de ses membres. Précisons, les individus de cette société discriminent, rejettent, insultent des personnes avec comme unique raison qu'elles ne pensent pas comme eux. Parfois, ils vont même jusqu'à obliger, forcer l'autre à changer sa façon de penser par la violence. Ces pratiques donnent une sensation de mal-être prononcée chez la victime. Cela peut même la pousser au suicide. Oui, vous m'avez bien entendu. J'ai dit les mots victime, mal-être et suicide. J'en ai des frissons. Par conséquent, à présent, nous abordons la manière dont les êtres humains doivent se comporter au quotidien. Dès demain, ils devront faire preuve de tolérance sur le fait que tous les humains n'ont pas la même façon de penser. Pour être bien clair, la tolérance est une attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes. Ils devront respecter, considérer les avis de chacun. Ils pourront avoir une opinion sur ces avis et l'exprimer tant que c'est de manière cordiale. Ensuite, soulignons le fait que les êtres humains ayant une manière de penser pouvant mettre en danger autrui ne doivent pas être tolérés. Ils auront leur propre procès prochainement. C'est la seule exception valable à la règle de la tolérance. Dès demain, à chaque non-respect de cette nouvelle loi, le fautif se verra automatiquement privé de sa capacité à parler, le contraignant à seulement pouvoir penser. Cela lui permettra de réfléchir sur ses actes et leurs conséquences. Lorsqu'il aura accepté le concept de la tolérance, il retrouvera instantanément sa langue. Cette ablation de la capacité à s'exprimer ne provoquera aucune douleur physique. Nous conclurons sur le procès, sur le fait que nous espérons tous que les êtres humains comprendront suite à cette nouvelle mesure, que s'ils continuent à agir comme ils le font aujourd'hui, ils se précipitent vers le chaos. Et même nous, les juges suprêmes, ne pourrons rien faire. Le demain des hommes a besoin de changement et de tolérance. La séance est levée.
Nous arrivons à la fin de l'Onde citoyenne 2021. Pas un, mais des vainqueurs pour ces deux journées d'argumentation, d'éloquence, de passion et de sincérité. Cédric, membre du jury, résume la pensée de tous.
Toutes les petites références ultra pointues et très agréables, parfaitement choisies, c'était super. Je suis stupéfait qu'on puisse entendre de tels propos sur de si jeunes personnes, qui sont des propos qu'on cherche bien souvent dans nos vies d'adultes, notamment chez des politiques, pour reprendre vos propos, quoi. Donc, félicitations.
Vous venez de vivre l'Onde citoyenne réaction en ricochet édition 2021 de la MJC Théâtre Couson de Rives-de-Gier. Retrouvez sur notre site www.radio-onden.fr toutes les propositions de ces jeunes, dont celle-ci, celle de Nina.
Besoin, c'est vague, abstrait. Besoin vitaux, superficiel, ce n'est pas très concret. D'un point de vue écologique, demain n'a pas besoin de nous. Même en voulant créer contre toute logique, nous détruisons tout. Forêts, espèces animales, nous faisons disparaître. Nous sommes à l'origine de l'extinction de ces êtres. Quand je parle de nous, je parle des hommes. Et de notre société de consommation. En réalité, des consommateurs, c'est tout ce que nous sommes. Nous achetons au maximum, mais jetons de toute façon. Peu importe le gaspillage et ceux qui ont faim. À quoi ça sert de vivre dans le partage? Tant pis pour eux s'ils n'ont rien. Du point de vue de la paix, nous sommes aussi dans le rouge. Il faudrait peut-être qu'on se bouge et revoir la notion de respect. On envoie des enfants au combat et personne ne trouve ça suspect. Des bombes jaillissent de part et d'autre. Le sang et les larmes coulent à flot. Nous nous exclamons « À qui la faute ?» Mais ne faisons rien pour apaiser leurs maux. Ceux des veuves et des mères en deuil. Ceux des réfugiés que personne n'accueille. D'un point de vue social, nos chances ne sont pas égales. Pour seule cause, l'origine, la couleur, l'orientation ou la religion. Est-ce vraiment valable comme raison? Inégalité salariale, sociale, remise en cause de la féminité. Quand allons-nous donc revoir notre soi-disant impartialité? Du point de vue de la justice, l'homme ne fait preuve que de vice. Tous ceux qui ne correspondent pas aux critères font de parfaits boucs émissaires. Normal que la jeunesse perde tous ses repères. Pédophiles et violeurs hantent les rues et notre entourage. On accuse les victimes et on ose dire qu'elles manquent de courage. Discrimination, harcèlement, violence. Simplement parce que nous avons peur de la différence. Au bout du compte, quelle sera la sentence ? Ceux qui en sont conscients parlent sans s'exécuter. Les gens ne cessent de s'exclamer. Stoppons la guerre! Sauvons la terre! Mais moi, je me demande, par où commencer? Quoi faire? Il ne faut pas juste reconnaître les problèmes, mais aussi les affronter, trouver des solutions. Il est essentiel de se remettre en question. C'est main dans la main qu'il faut prendre les décisions. Je ne peux continuer sans citer Mandela, qui nous prouve que nous pouvons crever l'abcès à une condition. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Ne trouvez-vous pas qu'il a raison? Pourquoi parler de demain et voyager dans le temps? Ce n'est pas assez évident que nous vivons dans le présent? Remettre au lendemain est devenu notre quotidien. Mais c'est inutile, car il n'existe pas encore. Et si on continue comme cela, il n'existera point. Faut-il abandonner l'humanité à son sort? Dans ce cas, c'est bientôt la fin. Les problèmes n'attendront pas que nous ayons décidé s'ils valent la peine d'être réglés, s'ils sont prioritaires, s'il y a une priorité, pour s'aggraver. Ils ne connaissent pas le futur. Il faut que cela cesse. Mais nous faisons tout pour que cela perdure. Nous mettons le feu à notre propre poudrière, en niant le fait que demain sera notre aujourd'hui
et qu'aujourd'hui, elle le demande hier. Einstein l'a dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Pensez-y. Enfin, je ne sais pas exactement de quoi demain a besoin. Sûrement d'un monde rempli d'utopie. Mais je sais que si on ne règle pas les problèmes d'aujourd'hui, leurs conséquences, plus graves, nous guettent non loin.